je crois qu'il faut prendre le mot patrie dans le sens d'Hölderlin. Le pays natal, la découverte du monde, le premier contact. Or, ce pays natal est toujours déjà perdu. C'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, en 1961, je suis parti sans une larme. Je m'éloignais de l'Algérie en même temps que de mon enfance. Ce qui veut dire que durant toute ma vie, j'aurais affaire à l'une et à l'autre. Hasard biographique, cette enfance et cette Algérie se recouvraient parfaitement. J'étais né en pleine guerre. J'avais 4 ans au moment des massacres de Guelma et Sétif, 14 au moment de ceux de Philippeville, 17 quand de Gaulle prononça une parole que personne ne comprit, digne en cela de la pitié de Delphes, « Je vous ai compris ». Et je quittai le pays un an avant l'indépendance. Cette concordance des temps me suffit. Oui, l'Algérie, la mienne, c'est l'enfance, la mienne. Les Kanaks ne disent pas « la terre est à moi », ils disent « j'appartiens à la terre ». J'appartiens à l'Algérie et de la même façon, je suis à l'enfance. Je n'ai aucune nostalgie, précisément parce qu'il s'agit de ma jeunesse et que celle-ci sera, comme toutes les jeunesses, éternelle, et qu'elle durera au moins autant que moi et qu'elle m'enterrera.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La fin de l'Algérie française aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, appartient à ces images en noir et blanc, sur fond de musique dramatique et de commentaires emphatiques. Tant d'autres drames depuis ont recouvert ces morts, ces larmes, ces déchirements, mais pas pour ceux qui sont revenus en France. Revenus, comme on le disait alors, terme étrange pour qualifier un exil, sur une terre qu'ils ne connaissaient pas. Pour cela, 60 ans plus tard, le souvenir reste vibrant, charnel, comme l'est celui de la perte d'un morceau de soi. Et lorsque ceux qui partageaient ce deuil s'en vont, il ne reste que les mots pour que la mémoire à son tour ne nous abandonne pas. Jean-Louis Comolli appartient au cinéma, on le sait. Scénariste et réalisateur, mais aussi critique et écrivain, ses précédents livres traitaient tous de ses deux passions, les films et le jazz. Mais aujourd'hui, c'est un récit très personnel qu'il publie chez Verdier, comme un solde de tout compte après la mort de son père et celle de sa femme, la merveilleuse Marianne Scotto Comolli, incomparable ordonnatrice de nos gourmandises. Pas de nostalgie, écrit-il, car l'enfance est toujours là, en lui. Seuls ont disparu ceux qui la partageaient. Une terrasse en Algérie redonne chair, odeur et couleur au pays perdu, mais pointe aussi les silences honteux et la férocité des haines, bien loin de l'imagerie d'Épinal habituelle. Bonsoir Jean-Louis Comolli.
Bonsoir.
Ce livre, je le disais, est très différent de vos livres de théorie parus sur le cinéma et sur le jazz, comme s'il avait fallu attendre que des liens se défassent, hélas que des deuils s'accomplissent, pour que tout d'un coup vous vous autorisiez, parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une permission tardive, d'écrire de la littérature. Mais pourquoi diable avez-vous attendu si longtemps?
Écoutez, parce que le cinéma m'occupait, qu'il y a quand même un petit écart, même un grand écart entre filmer et écrire. Cela dit, j'ai toujours été d'abord un lecteur. Bon, c'est comme ça que je me définirais, je suis un homme du livre. Voilà, alors ça veut dire que je lis beaucoup, enfin autant que je peux, et que les livres pour moi tiennent une place finalement au moins aussi grande que le cinéma, et peut-être que plus je vieillis, plus cette place grandit, et que donc je me réfère aujourd'hui peut-être davantage à des livres, à des romans, à des auteurs, qu'à des cinéastes, bien que j'ai mon panthéon et auquel je tiens beaucoup. Mais là, au fond, la mort de Marianne, il y a presque 2 ans maintenant, a été un coup de semonce et m'a fait prendre conscience d'abord du fait qu'on était mortel, mais ça je le savais déjà.
S'en doutait un peu sans doute, oui.
Mais surtout que quelque chose était en train de se perdre de ce que elle et moi nous avions vécu ensemble, l'un à côté de l'autre, et que nous pouvions pendant toute une période de notre vie partager. Et puis, la maladie est arrivée, c'est la maladie de l'oubli. Et cette maladie a fait que j'étais finalement le seul à me souvenir. Et je me suis dit, bon, bah, alors là, il faut écrire, parce que si je suis le seul, je vais disparaître, bien entendu. Et tout ça va sombrer dans le néant. Et je voulais pas que ça sombre dans le néant. Voilà. Parce que pour moi, c'est une histoire importante, évidemment. Voilà. C'est mon enfance, c'est ma jeunesse, c'est tout ce qui m'a constitué. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous a fait?
Oui, mais Jean-Louis Comolli, bien sûr que c'est votre jeunesse, mais c'est aussi une part de notre histoire. Et c'est une part de l'histoire, vous le dites, que vous avez partagée avec Marianne Comolli, parce que dans ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre histoire, c'est que vous êtes connu adolescent, 14 ans, ouais. Et que vous avez passé le reste de votre vie ensemble, et que donc cette Algérie, elle est partie constitutive de votre histoire, de votre amour, de votre œuvre à tous les deux. On écoute Marianne Comolli.
C'était dans un petit village qui s'appelle Stora, qui est en face de la ville de Skikda aujourd'hui, Philippeville autrefois. C'était un très joli village abrité des courants marins, avec des anses, des rochers, etc., qui était construit sur deux versants d'un oued, lequel était coupé de différents petits ponts romains. Le verger était planté de d'autres fruits, d'arbres fruitiers aussi. Il n'y avait pas seulement des agrumes, il y avait des abricotiers, des amandiers, des pruniers. Et puis, il y avait des cédras. Alors, le cédra est un fruit absolument émouvant, car il est énorme, avec une peau extrêmement épaisse et extrêmement bosselée. Ça reste vert. Et il y a une très grosse partie blanche sous le zeste, qui est douce, qui n'est pas amère, contrairement à celle des autres agrumes. Et l'intérieur du cédra est un tout petit fruit, assez citronné, qui n'est pas plus gros qu'un citron vert. Et c'est peu juteux. En fait, tout l'intérêt du cédra est dans sa peau. D'ailleurs, quand on le fait confire, on utilise non pas à l'intérieur, mais tout le zeste, y compris la partie blanche. Et ce qu'on fait en Italie, ce qu'on faisait aussi en Algérie, c'était des salades de cédra fraîchement cueillies. Donc on coupait le fruit en quatre, puis en très très fines lamelles, et on le mangeait simplement avec de l'huile d'olive et quelques grains de sel.
Marianne Scotto Comolli, qui trouve le cédra émouvant.
Ben oui.
C'est elle qui nous a appris aussi à faire ce genre de cuisine. J'allais dire Jean-Louis Comolli, qui vous a aussi inspiré pour ce genre de cuisine littéraire que vous nous offrez avec Une terrasse en Algérie, parce que vous avez réussi dans ce livre à mêler la présence qui s'en allait de plus en plus de Marianne dans la perte de la mémoire, et puis ses souvenirs d'Algérie qui revenaient. Comme quoi, c'est un livre qui est vraiment intimement tissé de vos souvenirs, de votre vie, de vos émotions.
Oui, c'était un moment pour moi unique, privilégié absolument. Nous étions, Marianne et moi, le premier amoureux de l'autre. Bon, c'est une chose qui peut paraître un peu naïve, un peu ridicule, mais qui finalement a du sens. Donc on a fait connaissance l'un de l'autre, mais on a fait aussi connaissance avec l'amour en même temps. Et on a amené dans cette reconnaissance de l'amour, ben on a amené ce qui nous faisait, c'est-à-dire la mer, Astora, la plage, voilà, les embruns, les ponts romains, tout un décor, disons, qui nous avait pénétré, dans lequel on était chez nous. Et donc, la disparition lente, mais malheureusement inévitable, impossible à arrêter, de la mémoire de Marianne, m'a jeté, comme je pense tous les aidants d'Alzheimer, dans un immense trouble. Voilà.
Est-ce que l'écriture vous a aidé, justement? C'est la question qu'on se pose en lisant.
Je pense que ça m'a aidé beaucoup, parce que j'avais déjà écrit, vous l'avez dit, bon, des essais, des critiques de films, etc. Bon, et c'est pas du tout la même chose, évidemment. J'ai franchi là, sans m'en douter, un peu naïvement, j'ai un obstacle ou j'ai un fossé que j'avais pas vraiment pensé, et qui fait que bon, j'ai écrit ce livre dans un double effarement, au fond, celui de la maladie de Marianne qui me laissait totalement impuissant. Parce que c'est une maladie qui paralyse l'autre. Et puis, celui d'écrire pour la première fois un récit qui est à la fois le lieu de souvenir et aussi le lieu d'un travail d'écriture.
Et d'ailleurs, ce livre commence justement par une journée très précise que vous savez dater parfaitement, Jean-Louis Comolli. C'est celle du 25 août 1955. Vous rentrez justement de la plage.
Et oui.
De cette plage où vous avez joué dans l'eau avec Marianne. Vous rentrez et vous assistez à ce qui est vraiment l'éclatement de cette guerre d'Algérie. 5 jours auparavant, il y a eu des massacres. Le FLN a massacré des Européens d'une manière épouvantable à ce qui s'appelait Philippeville. Et vous, vous arrivez 5 jours après, vous rentrez de la plage et vous voyez la répression se mettre en place. Ce sont les troupes du général Ossarès. Ils ont arrêté sans distinction, sans chercher de coupable,
en gros, quoi, en
la
vrac.
Population masculine de Philippeville. Et ils vont les conduire au stade. Vous vous en doutez bien, c'est pas pour leur offrir des fleurs.
Hélas.
Mais le silence commence, c'est-à-dire que vous rentrez et personne ne parle de cela qui se met en place.
Moi, j'ai vécu dans la maison du silence. J'ai fait partie d'une famille du silence. Donc, ce qu'on a appelé les événements, la guerre d'Algérie qui portait pas encore ce nom, était là, à la porte, si j'ose dire, mais elle n'était pas dans la parole. Personne n'en parlait. Donc, on était devenus d'une certaine façon autistes. Il y avait quelque chose comme ça. Des choses étaient là, on pouvait les voir. Le journaux arrivait, bien sûr. On était abonné à la dépêche de Constantine. Elle arrivait tous les jours. Et puis, en même temps, les oreilles et les yeux se fermaient. Alors, cette situation est fort étrange parce que ce silence a duré des années, des années, des années. Et il a duré, je dirais, des deux côtés, aussi bien du côté de Marianne que du mien. Nous n'avons, pour ainsi dire, jamais parlé de la guerre, elle et moi. Et pourtant, nous y étions. Voilà, quand nous nous sommes revus en 58 à Alger, on sortait de la bataille d'Alger, et Alger était entièrement verrouillé par des paras, des barrages, des barbelés. Bon, c'était la guerre, on pouvait pas ne pas la voir. D'ailleurs, il y avait un couvre-feu, il fallait qu'on rentre tous les soirs avant le couvre-feu. Donc la guerre était véritablement sous notre main, sous nos yeux, et pourtant, il y avait un déni. Je suppose qu'on n'était pas les seuls dans ce déni, que c'est un déni qui a été assez général, mais il y avait un déni puissant. On ne voulait rien en entendre parce qu'on voulait vivre notre jeunesse quand même. Donc il y avait cette pulsion de vie, cette poussée de vie formidable qui fait que on écarte tout ce qui pourrait être menaçant ou qui pourrait nous rendre finalement plus lucides et plus malheureux.
D'ailleurs, cette terrasse en Algérie, Jean-Louis Comolli, c'est celle de ce café l'Excelsior, où vous retrouviez vos camarades de lycée, des jeunes, impliqués forcément, tous pieds noirs, et pourtant, jamais un mot.
Tel un immense radeau carrelé d'ocre, la place marquée flottait sur la dérive de l'ancien empire colonial français. La mer était là, qui agitait doucement la rive. Rien du souffle coupé du malheureux dont on plongeait la tête dans la baignoire. Il y a une sorte de sidération, y repensant, à voir le monde des horreurs de la guerre voisiner avec la douceur de vivre avant la chute. Or, tout le monde savait et personne n'en parlait. Jamais. Nous étions 10 ou 12 garçons de 15 ans ou plus, attablés à la terrasse de l'Excelsior à descendre des 33 en dépiotant des cacahuètes. Jamais aucun de nous ne parla de torture. Ce silence, léger là-bas, devient lourd ici. Comment est-il possible qu'une bande de jeunes gens qui se voyaient tous les soirs ou presque se tinssent au bord de l'abîme sans mot dire, riant et buvant joyeusement, tout comme dans la scène de la taverne du Faust de Goethe, le diable et la mort à deux pas? Et que puis-je retrouver 60 ans plus tard de notre fraîcheur d'alors? Rien n'est plus effrayant, peut-être, qu'un oubli collectif, qu'une forclusion à ce point partagée qu'il ne se trouve à personne, pas un de nous, pour la dénoncer. Et je crois que cet instant de surdité et à la fois d'aveuglement n'était pas un instant. Qu'il dura des mois, un an, 2 ans, interminable instant, précieux comme le petit vent qui soulève à peine les 5 pétales d'un bouton d'or, le vent de l'effacement de nous-mêmes, le souffle léger porteur de notre futur. Et sans le savoir, nous avions déjà déménagé. Seule raison que j'ai reconnue à cette absence à nous-mêmes, nous étions ailleurs. Le présent était tout, l'ici était devenu maintenant, Le temps de vivre s'était concentré mystérieusement en un seul point, qu'aucune carte n'aurait situé, qu'aucun temps n'aurait bordé, sinon cet éternel présent.
Jean-Louis Comolli, 60 ans pour que vous vous interrogiez sur ce silence.
Oui, alors ça procède à la fois d'une pudeur, c'est-à-dire la honte, au fond, de remuer les vestiges du passé. Et ça procède aussi, sans doute, d'une barrière qui s'est érigée en moi entre ce que j'appellerais la part documentaire du cinéma et la part fiction du cinéma. Il se trouve que j'ai commencé à filmer des fictions, et puis, à un certain moment, j'ai plus pu. Ça m'est apparu comme faux, totalement faux. Comme d'ailleurs l'Algérie coloniale, je dis qu'elle était fausse de bout en bout. Tout était faux. Les rapports qu'on avait avec les autres étaient faux. Qu'on avait entre nous étaient faux. C'est le faux qui régnait. On le savait et on n'empêchait pas la chose. Et donc, passer au bout de 60 ans à la fiction, c'était pour moi une véritable aventure. C'est-à-dire quelque chose sur quoi je n'avais aucun contrôle. Je vous parlais d'effarement tout à l'heure, oui, c'est ça. Bon, les choses s'écrivaient. Bon, alors évidemment, je tâchais d'être le plus précis, le plus exact, de pas trop m'égarer, disons. Mais en même temps, comment ne pas s'égarer, puisque c'était précisément dans l'aveuglement que tout ça s'était forgé.
Voilà. Et pourtant, dans votre livre, on voit bien, vous traquez les moindres bribes de paroles que vous avez saisies. Alors, bon, avec vos amis, vous dites, on était jeunes, on voulait profiter de notre jeunesse, on était ailleurs, on avait peur de la vérité. Mais chez vous, par exemple, votre père, qui a une personnalité importante, était lié à un capitaine, appelle toujours mon capitaine, avec qui il avait fait la guerre brillamment. Et là, vous saisissiez au passage quand même quelques bribes. Il parlait d'exaction, il parlait de la crainte de l'avenir.
Tout à fait. Non, ça définit, à mon sens, la raison pour laquelle j'ai fait du cinéma. La curiosité, comme Saint-Augustin le dit pour la dénoncer, la curiosité de ce que l'autre dit, pense, fait, etc., m'animait très fort. Et je pense que c'est un des motifs pour lesquels j'ai voulu passer de ce qu'on appelle la fiction cinématographique à ce qu'on appelle, d'un mot pas très juste, le documentaire, où j'ai affaire à des vraies personnes et où précisément c'est cette vérité-là, réelle, le réel, qui me touche, qui me bouleverse. Et donc, les souvenirs, nous ne les contrôlons pas vraiment. Ils s'imposent plus ou moins à nous. Et j'aurais dit volontiers, en commençant le livre, je me souviens de rien. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, les souvenirs sont venus.
Je me souviens de tout.
Mais oui. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous venus, non, loin de là, mais une petite partie, et notamment ces dialogues entre mon père et le capitaine. Bon, deux guerriers, d'une certaine façon. Bon, en plus, l'histoire de mon père, évidemment, avait tout pour me fasciner, puisque c'était une des grandes histoires dramatiques auxquelles j'ai eu affaire dans ma vie.
Menteur,
un joueur, un séducteur. Enfin, bref, il avait toutes les qualités ou tous les défauts. Et donc, c'est un personnage important pour moi. Et les conversations qu'il avait avec son capitaine, son ami capitaine, étaient des conversations que je ne voulais pas perdre. Donc, je me suis arrangé, c'est ce que je raconte dans le bouquin, pour être là, dans un petit coin, où on ne voyait pas de l'autre côté de la tenture, sur le balcon, etc. Mais j'écoutais. Alors, je me souviens évidemment pas de tout ce qui s'est dit entre eux. Il y a une part perdue. Mais la part qui reste me paraît importante. Parce que ça m'a aidé aussi. Disons qu'avec moi, avec ma sœur, avec ma mère, on ne parlait pas de la guerre, mais entre mon père et le capitaine, il était question de ça. Donc il y avait quand même une fenêtre qui s'ouvrait, une ouverture sur le monde, sur la réalité. Et ça a été très formateur pour moi, bien sûr.
I don't want you no more. Goodbye. Goodbye. the men go out from you, stay out all day and night. Goodbye, goodbye, daddy, goodbye.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Mes contemporains avaient été pris de cette fièvre. Ils en étaient malades. La maladie du temps qui reste affectait chaque pied noir, homme, femme ou enfant, et empêchait ou lui gâchait en grande partie toute délectation, toute jouissance de ce temps qui reste, parce qu'il s'agissait impérativement d'en profiter au plus vite, sans plus attendre. Les rêveurs avaient disparu ou bien s'étaient convertis à la fièvre obsidionale généralisée. Nous avons connu les congés, les vacances, les jours fériés vécus fébrilement, comme si c'était les derniers. Fini, plus rien d'autre. Et ceci venait en partie contredire l'aveuglement général quant au destin de ce pays. Vu d'un côté comme un éternel jardin d'Éden à nous promis par notre travail acharné ou pardon divin, et d'autre part, cette urgence, ce sentiment du dernier moment, de la fragilité de toute beauté, de la vanité de tout calcul. L'approche de la fin est la chute dans l'enfer refoulé, disons-le, par la puissance majeure de l'illusion dans laquelle, ici et ailleurs, les hommes préfèrent vivre. Paul parlait volontiers d'une schizophrénie pied noir, mot savant d'un demi-savant. Et c'était de croire en deux hypothèses contradictoires, qu'on était là pour toujours, dans notre Algérie, et d'autre part, qu'on ne pouvait vivre cette promesse d'éternité que pris dans l'urgence la plus folle, car ce n'était pas notre Algérie. Il ne s'agissait d'ailleurs pas tant de croire que de subir, au-dessus de nos têtes, les nuages blancs de l'éternité, sous nos pieds, dans la terre rouge ou dans le sable, la brûlure de l'urgence.
Jean-Louis Comolli, on entend dans cette nouvelle lecture d'une page de votre livre « Une terrasse en Algérie » qu'effectivement ce silence dont vous parliez, c'est un silence parmi vos camarades, dans votre famille, parmi les pieds noirs sur « qu'est-ce qu'on va faire, c'est la guerre ». On n'employait même pas ces mots-là.
Non, le mot était banni. Ouais.
Et en fait, il y a un portrait assez rapide dans votre livre qui explique aussi ça. C'est, par exemple, vous parlez de l'innocence de votre mère. Et vous écrivez « ma mère vivait là, chez elle, là où elle était née, en toute simplicité ».
Oui. Eh oui, c'est ce qui faisait sa force d'ailleurs. C'est
pour elle n'imaginait même pas qu'on puisse la déloger de son pays.
Elle ne comprenait pas qu'on vienne discuter sa présence.
Mais la présence des Arabes, comme on les appelait à l'époque, ça lui semblait des fantômes. Ils n'étaient pas chez eux.
Disons que aussi bien les Français de France, qui intervenaient beaucoup en Algérie, bien sûr, que les Algériens, les Arabes, autrement dit, lui semblaient des importuns, des gens qui étaient là pour l'embêter, qui n'avaient aucune raison de faire quoi que ce soit contre elle, et qu'elle subissait avec mauvaise grâce et même parfois colère.
Mais donc ce discours des pieds noirs sur « on s'entendait si bien avec nos voisins algériens, arabes ».
C'est pas complètement faux, il y a quelque chose de juste là, mais de juste là aussi, je crois que on parlait pas de la guerre entre pieds noirs ni entre pieds noirs et algériens. C'était un sujet totalement tabou, mais même pas tabou au sens d'un interdit violent, tabou parce que voilà, c'était hors sujet, hors champ.
Il n'y avait pas de possibilité de discussion.
Voilà, on pouvait pas le voir. Et donc, les pieds noirs, bon, je dis mes compatriotes parce que je me sens très lié à eux, malgré les critiques que je peux émettre sur, d'une certaine façon, leur stupidité d'avoir suivi des mauvais chefs, des chefs fascistoïdes qui n'avaient rien compris et qui ne pouvaient rien comprendre. Mais ceci mis à part, j'ai toujours pensé que des pieds noirs regrettaient d'avoir perdu l'Algérie, quelque chose qu'ils n'avaient pas. Voilà, ils ne l'avaient pas, cette Algérie. Elle n'était pas à eux, et ils le savaient. Ils savaient qu'ils étaient là, eux, en intrus, qu'il y avait une colonisation. En plus, cette colonisation avait été dramatique, avec des massacres, quelque chose qui appartient plutôt au siècle précédent, enfin au 19e. Donc, ils n'étaient pas chez eux. Ils en avaient quand même une obscure conscience. Et du coup, c'est pour ça que je dis « la fausseté régnait ». Parce qu'ils faisaient comme si, ils étaient chez eux. Voilà.
Mais vous-même, Jean-Louis Comolli, dans le livre, vous expliquez qu'au fond, quand vous étiez avec vos amis sur cette terrasse de l'Excelsior, au lycée, parmi les autres, cette connaissance-là, vous ne l'aviez pas. Cette théorisation du conflit, du fait que l'Algérie n'était pas la vôtre, c'est venu plus tard. Sur le moment, quand vous étiez là-bas...
On était de gentils imbéciles, si vous voulez. Disons les choses comme ça. Non, parce qu'on ne voulait pas voir, donc on ne voyait pas. On ne voulait pas entendre, donc on n'entendait pas. Et au fond, on s'entendait pour ne pas entendre. Voilà, il y avait cette complicité un peu sotte de ceux qui jouent le mauvais rôle et qui se sentent proches les uns des autres, alors qu'en réalité, ils sont tout aussi aveugles et sourds les uns que les autres. Mais rétrospectivement, parce que j'écris ça donc 60 ans après... ou plus. Bon, rétrospectivement, je ne peux pas leur en vouloir parce que j'étais comme eux, mais totalement comme eux, c'est-à-dire incapable de penser la situation, incapable d'organiser ma pensée en fonction des contradictions qui étaient pourtant parfaitement lisibles.
Mais
puisque
j'avais vu cet
épisode de répression qui m'avait bouleversé. Voilà.
Et d'ailleurs, vous n'étiez pas le seul, puisque même en métropole, comme on disait alors pour l'Algérie, les hommes politiques qui s'étaient engagés et qui avaient été élus sur des mots d'ordre d'émancipation, de pas vers l'autonomie, eux-mêmes, quand ils arrivaient à Alger, comme Guy Mollet, par exemple, le 6 février 1956, eh bien, ils retournaient instantanément leur veste.
Exactement.
Le cortège est maintenant sur le point d'arriver. Vraiment, l'atmosphère d'Alger est oppressante. Les enfants massés, vous les voyez manifester. Les figures sont tendues, encadrées. Les gens sont encadrés par des troupes en casque. Au-dessus de moi, toujours ces petits avions d'observation qui rappellent évidemment de très mauvais souvenirs et qui patrouillent. Et vous entendez la foule qui se déchaîne, car voici les motocyclistes qui précèdent la voiture du président du conseil, M. Guy Mollet. M. Guy Mollet descend. Il est pâle. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ. Ils sont tous assez mal à l'aise, si j'en juge par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du conseil, des pierres volent, et le président du conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. Ça y est, les parachutistes et les CRS ont reçu l'ordre de charger, ils chargent. Ils chargent dans la foule.
Jean-Louis Comolli, cette émotion, parce que c'était une véritable émotion chez les Pieds Noirs, cette passion pour leur pays, cette espèce d'emportement violent, au fond, il saisissait tous ceux qui essayaient de promouvoir une autre politique. C'était
impossible.
Oui, parce
que c'était d'une force. Le mot « peuple » n'a pas été prononcé, mais il y avait la force du peuple. Quand vous avez 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui crient les mêmes choses, ça vous transperce, ça vous ébranle, ça a de l'effet, à la fois corporel et mental. Et donc c'était, j'imagine, le désarroi de Guy Mollet, qui, sur le papier, était un foudre de guerre, et dans la réalité, il ne l'était pas. Et qui donc a tout cédé. Il a congédié Catrou, qu'il avait nommé gouverneur général de l'Algérie, il a fait appel à son vieil ami Robert Lacoste. Et donc il n'a pas géré cette crise comme il lui fallut le faire, parce qu'on cède, mais on ne cède pas tout, on cède un peu, donc c'est ce qu'il y a de pire. La situation devient en effet totalement déséquilibrée et fausse, et les haines montent. Je crois que cet homme a été haï véritablement, peut-être plus que De Gaulle, qui ne l'a été que plus tard, parce qu'il y a eu un moment où la foule algérienne, pieds noirs, européenne, comme on disait les Européens, pas les Français, les Européens, ils se sont mis aussi à détester le général De Gaulle, qui leur avait littéralement menti.
Mais vous le dites, Jean-Louis Comolli, vous partez, puisque de toute façon, vous avez passé votre bac, il faut aller en France, et au fond, vous partez en exil, mais avec une expression dans votre livre. Vous étiez déjà étranger en votre maison, vous n'étiez pas chez vous en Algérie, même si vous ne le disiez pas. Et au fond, arriver dans un autre pays où vous n'étiez pas plus chez vous, parce que vous racontez cet antagonisme féroce qu'il y avait entre les Pieds Noirs et les Français du continent. C'était deux peuples différents, deux civilisations différentes, avec des histoires différentes. Et ça a dû être très douloureux. Et vous dites, au fond, le cinéma... a été votre patrie, d'une
certaine
manière.
Parce que très vite, en arrivant à Paris, bon, je me suis inscrit à la Sorbonne, puisque c'est pour ça que je venais à Paris, pour suivre des cours de philosophie. Mais il se trouve que la Sorbonne et la rue d'Ulm, où était à cette époque-là la Cinémathèque française, celle de Henri Langlois, étaient quand même à 250 mètres l'une de l'autre. Et que très vite, pour des raisons qui tiennent à ce qui s'était passé à Alger, où j'étais avec mon ami Narboni, un des animateurs du ciné-club d'Alger, ciné-club qui pendant longtemps était le plus important de France, avant d'être obligé de fermer sous la menace des colonels. Enfin, des colonels, c'était pas des colonels, c'était des généraux. Mais enfin, ça revient au même. Et donc, déjà, en Algérie, le cinéma était une sorte de point d'attache, de repère, quelque chose qui nous rassemblait, que nous pouvions vivre, en oubliant le reste. J'aime beaucoup dans le cinéma, comme d'ailleurs quand on lit un livre, bien sûr, la mise en suspens du monde. Le monde devient brusquement plus léger, moins visible, il occupe moins de place, et donc on est plus libre, tout simplement. Il y a une liberté du spectateur de cinéma, une liberté du lecteur de roman, dont la fantaisie, l'imagination peut galoper sans faire de mal à personne, si j'ose dire. Et donc, c'était pour moi, effectivement, un refuge. Qui plus est, venant tous les jours, ou presque, à la Cinémathèque, il y avait 3 séances par jour, l'après-midi et le soir, et du coup, il y en avait d'autres comme moi. Et c'est là que des amitiés se sont nouées, des relations se sont établies, parce qu'on était des cinéphiles qui se croisaient, pour ainsi dire, tous les jours, et qui échangeaient quelques propos sur les films qu'on voyait. Donc, c'était une sorte de famille, disons-le comme ça. Mais une famille dans la distance, sans aucune
familiarité
réelle. Mmh. Voilà, c'était très... Chacun tenait sa place et son rang. Mais on était animés par la même passion du cinéma, donc on avait en commun quelque chose d'essentiel. Bon, quelque chose qui ne m'a jamais quitté, mais qui s'est trouvé très vite en concurrence, parce que déjà à Alger, dans les années 58, 59, 60, eh bien, j'avais une bibliothèque importante. Mon père avait fait l'erreur de m'ouvrir un compte chez un libraire. Et bon, il l'a regretté parce que ça lui a coûté très cher, finalement. Moi, j'allais chez le libraire, je prenais les livres que je voulais, je les ramenais chez moi. Et tout ça, c'est mon père qui le payait. Alors, un beau jour, il a compris, il a suspendu ce compte. Mais j'avais quand même accumulé un grand nombre de livres. Et un de mes regrets, je ne sais pas si je le dis peut-être, c'est que quand j'ai dû partir comme les autres, enfin un peu avant les autres, en 61, j'avais demandé au libraire de m'envoyer cette bibliothèque. Et puis, évidemment, elle n'est jamais arrivée. Donc, j'ai pas seulement perdu l'Algérie, j'ai perdu les livres que j'avais acquis en Algérie.
Eh bien, les livres, d'une certaine manière, ne vous ont jamais quitté, puisqu'en voici un. C'est un vrai magnifique beau livre de littérature. Ça s'appelle Une terrasse en Algérie. Ça vient de paraître aux éditions Verdier. Et merci à vous, Jean-Louis Comolli, d'être venu nous en parler. À bientôt.
Merci
pour
beaucoup,
un autre livre,
merci.
Sûrement.
Écoutez, je suis très touché parce que, quand on parle de mes films, je suis à hauteur. Et là, malheureusement...
Eh bien, une nouvelle carrière s'ouvre devant vous. Merci, au revoir.
Merci beaucoup, Catherine.
C'est terminé pour cette humeur vagabonde de cette semaine, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons samedi prochain aux environs de 19h20. Et bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée, à l'écoute de France Inter, bien entendu.